France Culture.
Esprit de justice qui va revenir sur une vieille question, mais qui revient progressivement à l'ordre du jour. On va parler de l'héritage. Faut-il réformer l'héritage ? On a beaucoup dit que la passion de l'égalité caractérisait la culture politique en France depuis des siècles. Comparaison des statuts sociaux, logique de l'honneur, dénonciation des inégalités de revenus, illégitimité du capital, etc. Mais cette passion française, toujours vive aujourd'hui, montre un point aveugle. Elle ne reconnaît pas à la hauteur de son importance l'un des moteurs de ces inégalités, à savoir l'héritage. Dans la France contemporaine, près de la moitié des individus n'ont pratiquement pas de patrimoine, alors que les 10% les plus riches détiennent à eux seuls la moitié des richesses privées, des patrimoines privés. Et 1% des plus riches possèdent à eux seuls près d'un quart de ces richesses. L'héritage ne corrige pas ces inégalités, tout au contraire, il les renforce. Et ce phénomène s'est encore accentué, comme on va le voir dans un instant, ces dernières décennies. Alors ce rôle majeur joué par l'héritage dans la reproduction des inégalités contemporaines semble passer au second plan, alors qu'il a fait l'objet d'un débat intense pendant tout le 19e siècle, depuis la Révolution, en allant parfois jusqu'à des propositions radicales, qui nous semblent radicales aujourd'hui, abolitionnistes, c'est-à-dire de supprimer purement et simplement. Les Français continuent de se vivre comme un pays égalitaire, et à lutter pour corriger les effets des inégalités, par l'école par exemple, ou par la méritocratie, sans s'attaquer à ce moteur. D'où l'importance de remettre l'héritage à l'ordre du jour du débat politique, en dehors des campagnes présidentielles, où il est peu présent, quelques partis qui réservent un paragraphe de leur programme à ce sujet. Et pour cela, il faut se donner le temps d'aborder tous les enjeux de la transmission du patrimoine, tous les enjeux, c'est-à-dire démographiques, économiques, historiques, juridiques et, bien sûr, fiscaux. Car peu d'autres sujets convoquent autant de dimensions de la vie humaine et collective que l'héritage. Et ce que va faire Esprit de justice ce soir, en compagnie de Nicolas Frémaux. Nicolas Frémaux est professeur d'économie à l'université de Rouen en Normandie, et chercheur au sein du laboratoire d'économie Rouen-Normandie, le LERN, et il a publié dans La République des idées en 2018 « Les nouveaux héritiers ». C'était au seuil, et pour en parler avec lui, une philosophe historienne des idées, Mélanie Plouvier, maîtresse de conférence à l'Université Côte d'Azur, spécialiste de la philosophie sociale et politique du 19e siècle, qui coordonne le projet Philhérite, philosophie de l'héritage, une ANR, et elle vient de publier un ouvrage qui tombe à point, La justice en héritage, repenser la transmission du patrimoine, c'est aux éditions de La Découverte.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les deux. Alors, Mélanie Plouvier, une vieille question qui revient sans cesse, mais qui paraît assez timide aujourd'hui par rapport à ce qu'elle a été au 19e siècle.
Effectivement, au XIXe siècle, l'héritage était sur toutes les lèvres. On parlait d'héritage, on discutait. C'est pas simplement d'ailleurs qu'on en parlait. Hein. On n'hésitait pas à critiquer cette institution, oui, à la remettre en question, à interroger sa légitimité. Et effectivement, comparativement, aujourd'hui, alors on pourrait dire qu'on sent un frémissement. On en parle un peu plus depuis peu. On sent les termes du débat n'ont pas l'ampleur encore qu'ils pouvaient avoir au XIXe siècle, alors même que dans l'ordre de la réalité économique, les économistes ont établi, depuis les travaux de Thomas Piketty, qu'on assistait depuis les années 1970 à un retour de l'héritage, à un poids de plus en plus croissant de l'héritage dans l'ordre économique.
Et alors, Nicolas Frémaux, un retour de l'héritage. Vous êtes économiste, vous avez participé à la suite des travaux, effectivement, de Thomas Piketty sur l'importance Et le retour, c'est ça qui est étonnant. On aurait pu imaginer que l'héritage allait décroître en importance, c'est le contraire qui se passe.
Oui, en effet, l'économie aujourd'hui, enfin, ou les sociétés aujourd'hui, les sociétés du 19e siècle, elles sont très différentes sur énormément d'aspects. Un point commun qu'elles ont, c'est ce poids de l'héritage, alors qui prend des formes différentes. Il y a évidemment des choses normalement sur l'âge auquel on hérite, sur le niveau de concentration des héritages, mais sur le poids global qu'occupe l'héritage dans l'économie, on est quasiment revenu à ce qu'il était au 19e, alors que justement, du point de vue du débat, on en est assez loin. Quoi. Donc c'est ça qui est assez paradoxal.
Alors, l'âge auquel on hérite, Mélanie Plouvier, vous faites beaucoup de références littéraires d'ailleurs dans votre livre. On croise souvent Balzac et d'autres, on y reviendra. Mais dans Balzac, on rencontre des jeunes héritiers.
Effectivement, quand on lit Balzac, si vous cherchez les figures d'héritiers qui sont nombreuses chez cet auteur, l'héritier, c'est un jeune homme très souvent de 25 ans. Et effectivement, Thomas Piketty a montré que l'âge moyen en 1820 était de 25 ans. Aujourd'hui, on hérite en pleine propriété, en moyenne, à 60 ans. Il faut mesurer cette réalité démographique, et je pense que vraiment, nous n'en avons pas pris collectivement la mesure. Aujourd'hui, les flux d'héritage sont en grande partie des flux de personnes de 80, 90 ans vers des personnes de 60 ans. Et, alors, on le devine, ça...
Donc des gens très âgés sont des gens relativement âgés.
On le devine, la première modification que ce que j'ai appelé cette séniorisation de l'héritage implique, la première conséquence, c'est les usages. On ne fait pas la même chose avec un capital à 25 ans ou à 60 ans. Mais je crois que ça interroge aussi profondément nos représentations de l'héritage, parce que nous continuons de justifier l'héritage comme s'il... quand on réfléchit à l'héritage qu'on veut transmettre à ses enfants, quelle figure de l'enfant avons-nous en tête ? Le jeune adulte. De ce point de vue-là, nous continuons à penser comme Balzac. Sauf que nos enfants vont hériter à 60 ans et l'héritage ne peut plus se légitimer de ce point de vue comme un point de départ. Il est devenu un point d'arrivée.
Mais alors Nicolas Frémaux, qu'est-ce qu'on fait d'un héritage qu'on soit à 60 ans ?
Alors, c'est là qu'il faut nuancer. En moyenne, en effet, on va hériter beaucoup plus tardivement. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Ce sera forcément différent. On ne va pas se lancer dans la vie ou investir dans l'immobilier.
On va le redonner à ses propres enfants. Il peut sauter une génération.
On peut, c'est ça. Donc, ce qui est important de nuancer, quand même, c'est le poids des donations. En fait. Pendant longtemps, on transmettait au décès. Et c'était tout, parce que ça arrivait relativement tôt dans la vie. Aujourd'hui, le poids des donations, il a considérablement augmenté. Et le problème, c'est que c'est encore plus inégal que l'héritage. Chaque donnée de son vivant,
pourquoi ?
C'est encore plus compliqué, parce qu'il faut avoir, des liquidités en fait, un patrimoine liquide en économie. C'est un patrimoine que vous pouvez transmettre sans gréver votre mode de vie. Donc, vous pouvez pas transmettre votre seule résidence principale sans justement devenir vous-même locataire, ce qui peut être fait, mais ce qui rend votre vie un peu plus compliquée. Donc, en fait, ce qui a été montré par l'INSEE notamment, c'est que les ménages qui arrivent à donner 100 000 euros ou plus, ce qu'on peut considérer comme des donations assez confortables, c'est des ménages qui sont déjà deux ou trois fois plus riches que le ménage moyen. Donc cet âge en fait auquel on hérite, en fait, où on reçoit des donations, il est très inégalement réparti. Donc on retrouve toujours en fait des individus qui vont quand même hériter tôt. Ils sont très peu nombreux, évidemment. L'héritier moyen, c'est bien celui qui a 50-60 ans, mais il n'a pas complètement disparu non plus.
Alors pour que des auditeurs se rendent compte, Mélanie Plouvier, vous savez, vous faites une référence qui est extrêmement parlante. C'est l'acquisition d'un appartement. Et on pourrait dire aujourd'hui à Paris encore plus. C'est-à-dire que ça, c'est ça les talons. Les jeunes ne peuvent habiter à Paris aujourd'hui que ceux qui héritent.
C'est une réalité de plus en plus importante. Il est compliqué dans les grandes métropoles et tout particulièrement à Paris d'accéder à la propriété de son logement sans aide familiale. Et il faut immédiatement cerner les enjeux de cette difficulté. Ça veut dire que par le seul travail, par la voie des études, des diplômes, de la progression de carrière, un bien aussi essentiel pour l'autonomie individuelle que le fait, par exemple, de vivre dans un logement d'une certaine taille et d'en être propriétaire, se trouve grévé.
Oui.
Et donc, l'héritage, de ce point de vue-là, ne doit pas être décorrélé hein, de la question du travail. Une des difficultés hein, des sociétés, de ce qu'on appelle les sociétés d'héritiers, c'est que les positions patrimoniales les plus élevées deviennent difficilement accessibles depuis les seuls revenus du travail et de l'épargne.
Alors, Nicolas Frémaux, sous votre plume, j'ai lu quelque chose qui est assez sidérant. Vous dites, c'est la définition d'un rentier. Vous dites, qu'est-ce que c'est qu'un rentier ? C'est celui qui reçoit d'emblée l'équivalent du salaire de toute une vie de travail.
Oui, c'est la définition de Thomas Piketty.
Mais
en effet, ce qu'on voit, c'est ça, c'est le paradoxe, c'est la comparaison avec le 19e, c'est que la figure du rentier qu'on pensait vraiment, justement, reléguée dans les romans de Balzac, de Flaubert, un peu qui vous voulez au 19e, elle revient aujourd'hui si on la définit comme ça. On retrouve pour la génération des gens nés dans les années 80-90, en gros ma génération, ce qui est estimé, c'est qu'il y aura à peu près 10% de rentiers au sein de ces générations-là. Donc des gens qui vont hériter plus que toute une vie de travail. Donc,
montrez-nous en quelque sorte le mouvement, ça baisse au début du XXe siècle.
C'est ça, ce qu'on trouve, c'est la courbe en U en fait, qui a été montrée par Thomas Piketty sur le patrimoine, c'est qu'en fait, au début du XIXe, jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a des montants de patrimoine qui sont très importants, donc qu'on retrouve dans tous les travaux et les romans du XIXe, et au cours du XXe siècle, on a un U, donc c'est vraiment une courbe qui ressemble à un U, c'est qu'on a une chute des patrimoines, et donc des patrimoines à transmettre aussi, donc de l'héritage lui-même, lié au choc de début du XXe siècle, donc les guerres mondiales, des crises importantes, une réforme aussi de l'État, de la manière dont il imposait
la progressivité de la loi 1901 aussi quand même.
C'est ça, oui, c'est vraiment une combinaison de tout ça, ouais, de destruction de patrimoine au cas de difficulté à épargner, etc., comme ce qui pouvait être fait relativement tranquillement, plein de guillemets, au 19e siècle où l'impôt était beaucoup moins invasif, était proportionnel et de manière très, très mesurée. Et donc on retrouve un creux en fait historique pour le patrimoine dans les années 60-70 où il n'y a plus grand chose à détenir. Tout est relatif et plus grand chose à transmettre non plus.
Mais on est avant les 30 Glorieuses ?
C'est à ce moment-là à peu près, donc c'est les générations nées qui auraient dû hériter dans les années 70 qui n'héritent plus de grand-chose et à ce moment-là justement le travail va prendre une place beaucoup plus importante et c'est donc l'épargne qui peut vous permettre justement d'acquérir des logements, de monter votre entreprise. Et depuis, la remontée du U, c'est ça, c'est ce qui se passe, c'est que justement on n'a plus de guerre et de crise majeure.
On meurt moins jeune quand même.
On meurt moins jeune aussi. Oui. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, le fait qu'il n'y ait pas de crise ou de guerre mondiale ou d'extruction de patrimoine, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est aussi dû à un desserrement de la fiscalité, du fait que la progressivité a tendance à s'étioler un peu, très différemment d'un pays à l'autre, qui fait qu'on peut accumuler plus aujourd'hui et transmettre davantage.
Alors, on a parlé de progressivité, on va un petit peu vite en besogne, Mélanie Plouvier, parce que il faudrait dire un mot quand même de ces débats très influencés peut-être par la Révolution française, quand même, par cette rupture centrale de la Révolution, qui est une révolution pour l'égalité et pour mettre fin aux privilèges. Et j'imagine que sous l'Ancien Régime, la transmission de patrimoine était un facteur absolument majeur de la reproduction sociale, comme on dit.
Oui, effectivement, sous l'Ancien Régime, les pratiques successorales étaient extrêmement diverses, d'une localité à l'autre, selon les types de biens. Les biens immeubles ne se transmettaient pas de la même manière que les biens meubles. Enfin, il y avait vraiment une très grande diversité de pratiques successorales. Il n'en reste pas moins que, tout particulièrement concernant la noblesse, les biens se transmettaient selon ce que l'on appelle la primogéniture masculine, le droit d'aînesse, c'est-à-dire l'essentiel du patrimoine pour l'aîné mâle, et que ce dispositif participait fortement à la concentration du patrimoine. L'héritage, les pratiques successorales façonnent un ordre social plus ou moins inégalitaire.
Oui, c'est ça. Mais alors, et en même temps, ça façonne, comment dirais-je, toute une société, ça structure une société, Mélanie Plouvier.
Oui, et alors, de ce point de vue-là, vous avez raison, la Révolution française a constitué une rupture profonde en substituant à la primogéniture masculine un principe d'égalité, ce qu'on appelle l'égalité successorale, autant pour les cadets que pour l'aîné, autant pour les filles que pour les fils.
Et en interdisant de déshériter. aussi de, c'est en retirant une liberté, je sais pas, Nicolas Frémaux, sur la possibilité de déshériter l'un de ses enfants.
Oui, c'est ça. Bah, c'est un des aspects assez importants quand on compare la France et les États-Unis, par exemple. C'est ça. C'est qu'en France, on n'a pas ce suspense qu'on va retrouver dans les séries, les films américains, l'ouverture du testament. C'est que oui. on peut avantager légèrement l'un des enfants. On peut passer après d'autres moyens, par les assurances vie. Mais en gros, on peut jamais déshériter vraiment.
Et puis, donc très très récemment, on arrive à mettre la réforme du statut du conjoint survivant qui devient héritier, ce qui n'était pas le cas auparavant, Mélanie Plouvier.
C'est un des points sur lequel la révolution, on l'a vu, hein, la révolution française confère des droits aux filles. Mais les révolutionnaires, les députés de la Constituante puis de la Convention ont très largement oublié l'épouse qui s'est trouvée reléguée.
Comment vous expliquez ça ?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu le moment de la Révolution française a été un moment pendant lequel s'est cristallisé ce dont nous sommes les héritiers, à savoir la transmission du patrimoine vers les enfants. Et la cible, hein, c'était vraiment d'assurer une égalité parmi les enfants. L'épouse était encore considérée comme n'étant pas totalement, de ce point de vue, de la famille.
Une pièce rapportée.
Il a fallu attendre très très longtemps, hein, pour changer cette donnée qui a l'épouse, hein, jusqu'à assez tardivement dans le XXe siècle, est restée la dernière à recevoir avant le fisc. Elle venait après les collatéraux.
Oui, mais alors, on a parlé de la progressivité, on va revenir dessus. La progressivité, c'était la solution qu'a trouvée la loi de 1901, c'est-à-dire progressivité, plus il y a de patrimoine, plus il y a de taxation, pour le dire rapidement, Nicolas Frémaux.
Oui, c'est ça. Tout au long du 19e, malgré justement des propositions qu'on peut trouver très extrêmes aujourd'hui, de plafonnement des héritages ou d'abolition, en fait, on est resté sur un impôt qui était proportionnel, comme fonctionne la CSG aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fonction du patrimoine que vous avez, tout le monde va payer le même taux. Et en fait, à partir de 1901, et puis 1914 pour les revenus, on va commencer à imposer de manière progressive. Donc plus vous recevez, plus le taux augmente, en fait, par un système de tranches. C'est ce qu'on a gardé aujourd'hui. Mais en effet, c'est relativement récent. Finalement, tout le 19e fonctionne de
manière proportionnelle. On a complètement oublié, dans ces débats politiques, on a complètement oublié les abolitionnistes, Mélanie Plouvier. C'est-à-dire que... Et les abolitionnistes, c'était radical. C'était la volonté, si on veut aller jusqu'au bout de l'égalité, il faut interdire l'héritage.
Globalement, les pensées du 19e siècle sur l'héritage ont été assez largement oubliées. C'est un des enjeux du travail que j'ai mené, que d'essayer de les faire sortir de l'oubli. Il y a une grande diversité de propositions, et les propositions abolitionnistes, on peut dire qu'elles se distinguent par leur radicalité, mais en même temps, je trouve que c'est relativement réducteur dans la mesure où ce qu'elles nous obligent à penser, c'est plutôt une transformation de l'héritage. Ce qui est fascinant dans les propositions du 19e siècle, c'est que on trouve de nombreuses propositions qui visent à, qui en tout cas qui interrogent le fait que ce soit nécessairement les enfants qui héritent du patrimoine. C'est ça le fait surprenant. C'est est-il si évident que ça, que ça doit être...
Ce qui me paraît aujourd'hui totalement évident.
Et même, ça heurte notre attachement profond à la transmission familiale du patrimoine. La Révolution française a mis en place cette transmission à égalité vers les enfants, et le 19e siècle reproche à la Révolution de ne pas avoir été assez loin, et propose de pousser encore le curseur en, cette fois-ci, interrogeant les destinataires de l'héritage. Ces penseurs... par exemple, proposent que d'autres, ils envisagent que d'autres destinataires que les enfants puissent être les successibles. Ça peut être des destinataires individuels. Par exemple, Fichte propose que ce soit une forme de hasard qui est le premier qui parvient à se saisir.
Oui, ça nous
interroge, mais finalement, entre le hasard de la course et le hasard de la naissance, bon. Mais il y a des propositions qui, c'est celles qu'on précisément on appelle abolitionnistes, elles ne visent pas tant à abolir l'héritage que à penser d'autres destinataires collectifs de l'héritage.
C'est-à-dire ?
Par exemple, les groupements professionnels, les communes, les départements. Et c'est ça qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à penser, à savoir on pourrait aller vers des destinataires collectifs et donc une forme de socialisation d'héritage.
Il y a une forme, il faut en parler pour ne plus en parler ensuite, Nicolas Frémaux, mais qui a été très importante au 19e, c'est la dot. c'est le mariage. C'est-à-dire la dot qui est une forme de dotation qui a aussi formidablement nourri les intrigues des romans du 19e siècle. La dot, elle va disparaître, et dans vos courbes, elle disparaît définitivement au début du 20e siècle.
Oui, c'est ça. C'est la donation spécifiquement au moment du mariage qui, en effet, est assez importante au 19e, à la fois pour transmettre, pour garantir aussi. On parlait justement du conjoint survivant qui avait très peu de pouvoir. La femme mariée a très peu de pouvoir. En fait, le mari a le pouvoir total sur le patron.
Et pourtant, elle apporte quelque chose.
Elle apporte quelque chose. Donc, justement, la dot et le régime matrimonial qui a été lié permettaient de protéger quand même le patrimoine et le fait que ce que vous transmettiez à votre fille reste quand même entre les mains de la famille et vous revienne potentiellement après et pas dans les mains du mari. Et en effet, ça, c'est un petit peu disparu parce que les gens se marient moins et parce qu'on va transmettre aussi à d'autres moments.
Donc, on va dire un mot peut-être de l'homogamie, c'est-à-dire que c'est aussi, ça fait partie des nouvelles inégalités.
À la mort de leur mère, tous les fils sont venus pour parler au notaire afin d'avoir des écus. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Les bancs de la victoire disparurent en premier et les fonds de tiroir étalés sur le plancher. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Moi, je prends la maison, je suis l'aîné des garçons. Non, toi, ce sera le piano, emporte-le donc sur ton dos. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. La terre, voyons nos terres, on se la dit, disant lopin. Non, c'est pas nécessaire, elle l'a donnée aux voisins. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Dites-nous dans les bâtiments, qui c'est qui va mériter? C'est écrit dans le testament, que ça va aux œufs de charité. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Fils qui est médecin hérite du râteau à foin. Celui qui est aviateur d'une paire de bœufs sans valeur. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Béatrice voulait le veau, c'est Siméon qui l'a eu. Donc elle a ouvert le clos, v'là l'orphelin dans la rue. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. L'engagé de la maison reste collé avec l'horloge. Dans le tic-tac de l'horloge était roulé un million. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, c'est la vieille qui a gagné.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui réfléchit ce soir sur la réforme de l'héritage et sur son importance dans la redistribution et la lutte contre les inégalités en compagnie de Nicolas Frémaux, économiste, professeur à l'Université de Rouen, et de Mélanie Plouvier, philosophe, qui vient de publier un ouvrage sur la question et qui a choisi de nous faire entendre cette chanson par Félix Leclerc. Un mot de commentaire, Mélanie Plouvier.
Cette chanson est assez admirable, en plus d'être rigolote, en tant qu'elle donne à voir cette dramaturgie de l'héritage. On le voit dans les paroles de Félix Leclerc. Finalement, la mort par cette transmission familiale du patrimoine entremêle du chagrin à des intérêts matériels, décompose à la fois la fratrie qui se bat pour à l'opin de terre, tout en recomposant les relations entre frères et sœurs. Et alors, la fin est tout particulièrement intéressante. Cette phrase, c'est la vieille qui a gagné. Il y a quand même cette idée, finalement, que à travers cette transmission, cette distribution des biens, les espérances qui se trouvent déçues par la même, il y a comme un pouvoir des morts sur les vivants. Un dernier point que je trouve intéressant dans cette chanson, c'est la variabilité dont on a déjà un petit peu parlé, la variabilité nationale des pratiques successorales. C'est donc Félix Leclerc est québécois et on le voit à plusieurs passages de cette chanson quand en particulier est envisagé et dit que le lot, finalement la terre a été donnée aux voisins. Il est précisément question ici de la liberté testamentaire et la possibilité qu'il y a au Québec de donner à d'autres qu'à ses enfants. Dans une configuration française, il n'aurait pas été possible de donner le lopin aux voisins.
Oui, alors, et puis il y a cette perspective, alors là, autre thème balzacien, je pense que c'est Balzac qui fait dire à un notaire dans un de ses romans, cette famille s'entend bien, oui, mais ont-ils hérité? c'est une vraie question, Nicolas Frémaux. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est essentiel, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est qu'on se représente l'héritage comme une transmission de patrimoine immobilier, de maison. Mais en fait, aujourd'hui, il y a une grande partie du patrimoine qui peut être sous forme d'actifs mobiliers. Je pense bien sûr à l'assurance vie.
Oui, l'assurance. Le patrimoine immobilier, il va constituer le gros du patrimoine pour la classe moyenne, en fait.
Oui.
Mais en effet, dès qu'on va monter dans les niveaux de patrimoine plus importants, le poids du patrimoine financier va devenir lui-même plus en plus important, le patrimoine professionnel aussi. Et en effet, les assurances vie, c'est un actif qui est transmis de manière très, très importante.
25% des transmissions, j'ai eu 24%.
C'est à peu près du flux total d'héritage, c'est d'assurance vie. Donc, avec des gens qui vont avoir des très petites assurances vie et d'autres beaucoup plus nombreuses. Et ça, c'est en partie expliqué par les dispositifs fiscaux qui incitent, en fait, finalement, à détenir des assurances vie parce que la manière dont elles sont fiscalisées est beaucoup plus avantageuse que des biens immobiliers, par exemple, d'autres types de biens.
Et parce que, en fait, il y a cette représentation aussi, je parle à l'économiste, c'est que ce qui est financier, c'est bien, c'est de l'investissement, ça profite à l'économie. Ce qui est immobilier, c'est moins productif et c'est fait quelque chose qui est moins dynamique économiquement, Nicolas Frémaux.
En tout cas, c'est le sens des différents dispositifs fiscaux. C'est-à-dire que les biens immobiliers vont pouvoir bénéficier de quelques ristournes fiscales, on va dire, mais beaucoup moins que des biens professionnels ou des actifs financiers. En tout cas, c'est le message que la fiscalité envoie. Si vous voulez justement transmettre votre patrimoine plus facilement et de moins coûteuse de manière fiscale, c'est en effet le patrimoine financier sur lequel il faut miser le plus. Dans les faits, c'est toujours un peu plus compliqué, parce que d'avoir donc une assurance vie en bon du trésor, c'est pas forcément investir non plus dans une entreprise. Donc c'est toujours un peu plus compliqué.
Oui. Et vous contestez d'ailleurs cette interprétation, ce présupposé, Nicolas Frémaux, en disant le bâtiment, quand le bâtiment va, l'économie va, et le bâtiment, c'est
pas... Oui, ça crée aussi l'activité. Enfin, c'est ça, on peut avoir des actifs, des actifs financiers qui ne créent aucune valeur, qui vont être que la spéculation, et à l'inverse, des actifs immobiliers qui peuvent en créer aussi. Donc c'est vrai que c'est pas aussi binaire que ça. Et en tout cas, la fiscalité, elle, a clairement fait le choix de mettre le poids, on va dire, sur plutôt l'aspect financier qui va être beaucoup plus modérément imposé.
Mélanie Puvis.
Si je peux ajouter un aspect philosophique sur cette question, je crois que ces exonérations et exemptions fiscales qui sont ciblées sur des types particuliers d'actifs, actifs professionnels, assurance vie, ou même des biens particuliers, les œuvres d'art, pose un problème de justice fiscale, dans la mesure où ce sont des types d'actifs qui sont détenus par les classes les plus aisées de la population, et c'est à leur égard que s'observe une distorsion, je vois pas d'autre mot, une distorsion entre le taux qui devrait s'appliquer et le taux effectivement pratiqué. Et cette distorsion, elle est légale, c'est ça qui est très très surprenant, et elle introduit, je pense, je crois qu'elle contribue fortement à l'aversion à l'égard de la fiscalité successorale, parce que concrètement, la classe moyenne patrimoniale qui ne bénéficie pas de conseils patrimoniaux paye selon les taux affichés, les taux légaux, quand des transmissions, des plus grosses transmissions, au moyen de conseils en fiscalité, en patrimoine, parviennent à avoir cette distorsion légale entre le taux affiché et le taux pratiqué.
Vous allez même jusqu'à dire, Nicolas Frémaux, et à prouver que c'est en réalité, même dans la taxation de l'héritage, les classes moyennes qui en supportent le plus gros poids.
Oui, c'est ce que vient de dire Mélanie, c'est en effet, elles ne vont pas pouvoir échapper à grand-chose, en fait. Vu qu'elles ne peuvent pas transmettre de leur vivant, vu qu'elles vont avoir des montants d'assurance vie soit très faibles ou vraiment quasi nuls, donc le seul patrimoine qu'elles ont, ça va être des biens sur lesquels il n'y a aucune déduction qui peut s'appliquer. Et donc forcément, alors, vous payez plein pot le patrimoine.
Venons-en à un mot des représentations, avant de s'aborder la question de la réforme. Les représentations, c'est-à-dire que on voit, alors sans compter qu'il y a des masses considérables, hein, des masses considérables. Vous rappelez peut-être un chiffre, Mélanie Poulet, que j'ai eu dans votre livre.
C'est la Fondation Jean Jaurès qui, en novembre dernier, a produit ce chiffre. D'ici 2040, 9 000 milliards d'euros vont être transmis.
9 000 milliards.
9 000 milliards d'euros. On n'arrive même pas à se représenter ces sommes. Ou si on veut se les représenter, rappelons-nous que François Bayrou cherche désespérément pour cette année 40 milliards d'euros pour boucler le budget.
Que fait le gouvernement pour ne pas saisir cette aubaine? Parce que c'est un impôt qui est très mal vu, Nicolas Frémaux.
Oui, il est très mal vu. Enfin, il a toujours été mal vu. Ça, c'est pas une nouveauté. Pour c'est vraiment une constante
historique. Tous les impôts sont mal vus,
mais
en général.
Oui, mais celui-là, particulièrement, mais il est mal vu pour pas mal de raisons, et certaines sont vraiment peuvent vraiment être modifiées. En fait, il y a plusieurs aspects. Il y a la perception de l'impôt et la perception de l'héritage, en fait, qui est très très fausse. Je pense qu'il y a vraiment une sous-estimation du poids que représente l'héritage. En fait, les gens se rendent pas compte, justement, des montants. Après, on peut multiplier les chiffres, mais des montants en jeu et du fait que la société française est beaucoup plus figée que ce qu'on pense. Et donc ça, c'est un premier élément. Si vous pensez qu'il y a pas de problème lié à l'héritage, mais en effet, pourquoi l'imposer?
Qu'elle est, non seulement elle ne se rend pas compte, mais qu'elle est plutôt optimiste. Elle pense que c'est une société qui continue de fonctionner à la méritocratie et que par le mérite individuel, par cette redistribution de l'aristocratie républicaine, on va dire, on va rétablir l'égalité.
Nicolas, oui, c'est l'image qu'on entretient beaucoup aussi en France. Donc c'est un élément qui peut jouer. Et de l'autre côté, on est très pessimiste ou très surestimé beaucoup l'impôt payé, en fait, justement. Donc là, et c'est là qu'intervient à la fois la différence entre l'impôt tel qu'il existe, avec beaucoup de règles que les gens ne maîtrisent pas vraiment et beaucoup de taux, et surtout avec un nombre de règles qui vont s'appliquer, mais pas forcément à tout le monde. Ce qui fait qu'il y a une grande défiance qui va se mettre en place. Et donc il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites en disant, si vous donnez aux gens les bonnes informations, est-ce que l'impôt est toujours aussi impopulaire? Et ça change. Tout ne change pas. On peut avoir une opposition pour plein de raisons, des raisons justement liées à la famille, au fait de vouloir protéger ses enfants, qui s'entend tout à fait. Mais dès l'instant que vous dites aux gens, regardez ce que vous allez transmettre, regardez ce que d'autres transmettent, regardez au final ce que vous allez payer, sachant que la plupart des gens ne vont pas payer l'impôt sur les successions, bizarrement, enfin, c'est pas du tout bizarre, mais les gens changent d'avis, et ça, on le retrouve dans plusieurs pays aussi.
Mais au 19e siècle, on a plus conscience de ce qui est transmis, on connaît mieux les règles du droit successoral, on connaît mieux les règles fiscales, Mélanie Plouvier.
Alors, je ne sais pas si la population française connaissait mieux alors le poids des inégalités patrimoniales. Peut-être qu'elles étaient effectivement plus visibles. L'aristocratie s'était reconstituée.
Bien sûr, oui.
Donc, il y avait vraisemblablement une visibilité plus forte de ces inégalités. Il y avait également, je crois, une figure, alors qui est la cible toute particulière, des Saint-Simoniens, ce courant de pensée socialiste, qui s'est déployé autour de Prosper Enfantin dans les années 1830. La figure qui était leur cible spécifique, c'était le oisif. La personne qui vivait et qui vivait bien sans rien faire. En d'autres termes, la dénonciation ce que dénoncent les Saint-Simoniens, c'est l'oisiveté opulente, le fait que l'on puisse très bien vivre sans rien faire, c'est-à-dire en exploitant les travailleurs.
C'est ça. Alors, Nicolas Frémaux, venons-en à la réforme. Venons-en aux perspectives, parce que on se rend compte de ces sommes absolument effarantes. On se rend compte du poids que ça représente dans la reproduction, plus que la reproduction, la création d'inégalités et qui semble ne pas aller en s'améliorant de surcroît. Alors, comment vous envisagez la réforme la réforme de l'héritage?
Il y a beaucoup de voies possibles, mais un des aspects qui est important, justement, c'est d'aller à contre-courant de ce qui est fait. C'est souvent un reproche qui est fait à la France, c'est de dire on est déjà finalement le pays qui impose le plus les héritages. Alors, avec plein de bémols, vu qu'on a toutes ces déductions possibles, finalement, le taux effectif en France n'est pas si élevé que ça par rapport au taux qui est annoncé, au taux théorique. Donc, En fait, le mécanisme principal, ça consisterait à augmenter la progressivité de l'impôt. L'idée, c'est pas évidemment d'imposer tout le monde de la même manière, parce que vous avez une grosse partie de la population qui hérite de pas grand-chose.
Et qui est pas concernée, finalement.
Et qui est aujourd'hui pas concernée, c'est très bien que ce soit pas concerné, mais justement, quand vous avez des montants très importants qui vont être transmis, qui vous donnent le statut de rentier, dans ce cas-là, se pose la question de la légitimité de l'impôt. Donc, dans ce cas-là, justement, ce qui est souvent avancé, c'est de mettre en place plus de progressivité dans l'impôt. Et ça peut se faire par des canaux très différents, justement en modifiant des taux, des barèmes qui existent déjà, en revenant justement sur certains dispositifs comme l'assurance vie dont on parlait tout à l'heure.
Oui,
ou comme
d'autres aspects. De rentrer dans l'assiette.
Donc là, il faut rentrer vraiment dans le détail de chacun des mécanismes, de pourquoi certains mécanismes existent, est-ce qu'ils sont bien évalués, la plupart du temps non.
Ils sont mal évalués parce qu'en fait, on ne les connaît pas très bien. J'ai été surpris en vous lisant qu'il y a un problème de connaissance dans cette matière-là.
Oui, il manque énormément d'informations aux économistes. Donc, c'est pas que les économistes sont feignants et ne s'intéressent pas à la question, c'est juste qu'on n'a pas accès à des données qui nous permettent de savoir qui fait quoi, qui paye quoi et qui reçoit quoi aujourd'hui. Donc en fait, ce qui est très paradoxal aujourd'hui, c'est que finalement, on avait beaucoup plus d'informations au 19e siècle sur qui recevait quoi que ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, pour l'année 2023 ou les années passées, on n'a aucun chiffre sur l'héritage. On est obligé de déduire des chiffres de manière assez indirecte, donc c'est fiable, mais ça reste très indirect. Le seul chiffre qu'on a, c'est combien ce qu'a rapporté l'impôt aujourd'hui et c'est tout. On ne sait pas qui le paye, on ne sait pas qui profite des différents dispositifs. Ce qui est assez problématique au final pour le débat public.
Pour le débat public et pour établir une politique, effectivement. Oui, Mélanie Plouvier.
Oui, effectivement, je crois que ce qu'a dit Nicolas Frémaux est très important. On manque aujourd'hui de chiffres, des chiffres qui existent, mais qui ne sont plus des données publiques, sur lesquelles les chercheurs ne peuvent plus travailler.
Pourquoi elles sont pas publiques ou elles sont à disposition, mais elles réclameraient un très grand effort pour pouvoir les rationaliser?
Non,
les
ça réclame. Je ne sais pas, après moi je ne travaille pas pour le ministère de l'économie. C'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème technique ou légal, enfin, c'est des données, mais aujourd'hui il y a tout un travail qui a été fait pour accéder à des données plus précises, par exemple sur l'ISF, et donc on peut aujourd'hui dire beaucoup plus de choses sur l'ISF depuis quelques années. Et ce même travail-là, il pourrait être fait sans aucune difficulté justement sur les données, sur les successions. C'est juste qu'il y a un manque, ça nécessite des moyens du côté de Bercy, de rendre accessibles ces données, mais c'est un manque de volonté politique aussi assez clair de pas donner.
Donc je crois qu'il y a là effectivement un enjeu de publicité, d'information du débat. Alors les voies de réforme peuvent être multiples. Il y a d'abord l'instrument effectivement de la fiscalité.
Qui est essentiel.
Et une mesure simple pourrait être, comme vient de dire Nicolas Frémaux, pourrait être de restaurer en un sens cette progressivité qui a été, c'est le rapport du Conseil d'analyse économique qui le dit, qui a été littéralement mitée par les exonérations et exemptions successives. On pourrait aussi affiner cette progressivité. Alors, je me tourne vers le 19e siècle, qui est le siècle dont je suis spécialiste, mais un auteur, par exemple, comme Eugenio Rignano, qui était un socialiste italien du début du 20e siècle, il proposait d'ajouter un facteur de progressivité. Aujourd'hui, et depuis 1901, le taux progresse selon le montant transmis. Eugenio Rignano propose d'ajouter un autre facteur, qui est ce qu'il appelle l'âge de la transmission, plus exactement le nombre de transferts précédents de ce patrimoine. Pour le dire simplement, on taxerait davantage un patrimoine que mes parents ont eux-mêmes reçu d'un précédent héritage, on le taxerait plus qu'un patrimoine issu du travail propre de mes parents. L'idée
pour
est
valoriser
donc,
le travail individuel.
Exactement, pour favoriser le travail. Vous voyez, une piste comme ça. Alors, bien évidemment, ça, il faut voir comment ça pourrait être mis en œuvre. Mais c'est une piste qui est intéressante parce qu'elle nous fait nous rendre compte. En tout cas, c'est une position en nuance qui différencie, enfin, qui reconnaît une certaine légitimité à la transmission des parents vers les enfants quand il s'agit du travail propre, mais qui essaye de lutter contre l'accumulation au fil des générations du patrimoine dans les mains d'un petit nombre de familles.
Sans compter que d'un point de vue de la rationalité économique, Nicolas Frémaux, de la rationalité économique, c'est pas sûr que transmettre une entreprise, ça la dynamise.
Non, c'est ça. C'est tout l'enjeu, je fais des questions fiscales en économie. Il y a deux aspects. Il y a un aspect, est-ce que l'impôt est juste et est-ce que l'héritage est juste? Donc là, là-dessus, il y a énormément de choses qui ont été dites, notamment par les philosophes. Les économistes, finalement, là-dessus, ils n'ont pas forcément beaucoup de choses à dire de plus. Ce qu'on va regarder en tant qu'économiste quand on regarde un impôt, c'est est-ce qu'il est efficace? Et est-ce que ce qu'on va taxer, est-ce que c'est efficace ou inefficace pour la société? Et globalement, ce qu'on sait, c'est que c'est une société où il y a beaucoup d'héritage, c'est pas forcément une société qui fonctionne mieux économiquement, en fait. Une société où.
Qui
produit plus de richesses. Ou une société où le patrimoine, de manière générale, pas forcément l'héritage, est très concentré, c'est pas forcément des meilleures sociétés économiquement parlant. Et donc là, on peut commencer à faire des comparaisons, etc., entre les époques, entre les pays. Mais ça, c'est un élément très important. Et en effet, c'est ça qui va à chaque fois essayer de justifier tel ou tel dispositif. On peut se dire, justement, tous les dispositifs fiscaux sur la transmission du patrimoine professionnel, c'est ça l'idée, en disant qu'il faudrait protéger le patrimoine transmis au sein de la famille, le patrimoine professionnel, en disant les enfants vont conserver l'entreprise, vont faire mieux que les parents, au moins aussi bien, ce que ne feraient pas forcément les employés qui récupéraient l'entreprise ou des fonds étrangers, etc. Le problème, il n'y a pas d'études équivalentes en France, mais une étude au Danemark qui a montré que ce n'était pas le cas, en fait, que les héritiers font souvent moins bien que les fondateurs. Donc toute la logique économique, l'argument économique derrière ce dispositif, il tombe, quoi. Donc ça veut dire, dans ce cas-là, c'est peut-être les employés qui sont les mieux à même ou d'autres personnes. Donc ça pose question, quand même.
Les Saint-Simoniens le disaient déjà dans les années 1830. Ils étudiaient cette classe de rentiers et ils montraient combien, en fait, les héritiers étaient souvent, pas toujours, mais souvent incompétents. Et il y a vraiment une analyse de l'incompétence institutionnalisée, parce que comme ils vont nécessairement recevoir, ils savent, et comme la gestion même des biens était déléguée, par exemple, au fermier général, etc., ils pouvaient vivre sans compétence.
C'est la célèbre phrase de Goethe, si tu veux, ce que tes aïeux ont laisser un héritage, si tu veux le posséder, gagne-le. Il faut le mériter. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see what wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand.
Esprit de justice, Antoine Garapon.
L'esprit de justice qui continue de réfléchir à l'héritage, aux manières de le réformer, à ses perceptions, à la fiscalité, en compagnie du philosophe et historienne des idées, Mélanie Plouvier, et d'un économiste, Nicolas Frémaux, qui est professeur à l'université de Rouen, qui a choisi de nous faire entendre cet air « Common People » par Pulp.
Oui, c'est beaucoup moins direct que le chemin
anglais.
Oui, en plus, mais ça met en avant, je pense, le décalage justement sur les choix de vie et sur le fait qu'est-ce que ça vous donne d'avoir un filet de sécurité qui est le patrimoine de vos parents. Et en effet, ça peut vous aider de manière matérielle à acquérir un bien immobilier, à vous lancer dans la vie, mais c'est aussi, on a beaucoup parlé de changement de carrière pendant le Covid, de gens qui allaient se reconvertir, c'est beaucoup plus facile si vos parents sont là pour vous aider que si vous êtes tout seul avec votre épargne, constituée difficilement. Donc c'est aussi ça qui est très, très difficile à quantifier pour les économistes, mais c'est aussi une vision de la vie qui est, je pense, assez différente dès l'instant que vous avez ce patrimoine privé qui peut vous aider.
Alors c'est une vision de la vie, et jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la manière de freiner ces inégalités, mais on n'a pas insisté sur l'aspect redistributeur. Vous nous disiez, Mélanie Plouvier, qu'au 19e, les Sassimoniens se disaient, mais pourquoi on ne donnerait pas directement à des départements, à des communes? Ça, il est là l'effet redistributeur.
Effectivement, alors le 19e siècle n'avait pas mis en place une fiscalité progressive qui avait pour ambition explicite d'opérer une redistribution, c'est-à-dire de corriger les inégalités patrimoniales en réduisant les écarts de fortune. Donc l'instrument privilégié par le 19e siècle n'était pas la fiscalité progressive. Pour autant, il y avait bien, via les réformes successives théoriques qui ont été pensées au 19e siècle, il y avait cette ambition d'enrayer la machine à produire des inégalités. Différentes pistes étaient proposées. Une des pistes intéressantes, c'était le droit successoral. On a complètement oublié cette idée, mais en fait, par le droit, on peut plus ou moins morceler les patrimoines, diriger le patrimoine vers les jeunes générations, favoriser la circulation entre branches pauvres et branches aisées de la famille. Et les révolutionnaires en particulier s'étaient pleinement saisis de cet outil qu'est le droit, qui est un outil pour le législateur pour opérer une certaine distribution des ressources. Mais ce qui est assez fascinant dans les propositions qui émergent au fil du 19e siècle, c'est l'idée que l'héritage pourrait être l'instrument privilégié pour transformer en profondeur la distribution de la propriété, pour même changer la nature de la propriété.
Dans quel sens ?
En ce sens que, alors déjà, les auteurs que j'ai étudiés sont des auteurs qui ont clairement conscience, beaucoup plus que nous, que c'est une phrase des Saint-Simoniens reprise par Émile Durkheim, que l'hérédité des richesses implique l'hérédité de la misère. Que l'un ne va pas sans l'autre. Oui. C'est une formule choc, mais qui qu'on a tendance à oublier.
Et qui est toujours vrai aujourd'hui.
Qui est toujours vrai aujourd'hui, mais je pense que ça a du sens de la rappeler aujourd'hui. Et ils ont également, les auteurs que j'ai étudiés ne sont pas des collectivistes. Ils ne sont même pas pour une propriété étatique. Ce ne sont pas ils ne préfigurent pas une forme de communisme intégral. Ce sont des penseurs qui sont respectueux de la propriété privée, mais qui l'encadrent et qui la limitent strictement au temps de vie de l'individu. Durkheim le dit aussi d'une formule très efficace, la propriété individuelle commence et finit avec l'individu. Tout est dit, ça semble une évidence. Et en même temps c'est une perturbation énorme, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à la mort, l'individu ne détient plus, il est poussière. Aux yeux de ces penseurs, à la mort de l'individu commence un autre destin des biens, un destin social, et ce destin social post-mortem des biens, elle nous oblige à réinterroger la propriété individuelle.
C'est quelque chose qui n'est plus du tout discuté aujourd'hui.
On ne le pense plus. Mais ce que ces auteurs pensent, finalement, c'est le fait que la propriété individuelle est une forme de concession sociale pour le temps de vie. Pour le seul temps de vie de l'individu. Et cette idée, oui, nous l'avons complètement perdue. Et revenir à la question de l'héritage permet de, je ne dis pas d'appliquer cette idée, mais de repenser, de rouvrir ce possible.
Il y aurait une autre idée aussi qui a été mise en œuvre, d'ailleurs, Nicolas Frémaux, c'est la dotation universelle. C'est-à-dire, c'est de dire, elle est très intéressante parce qu'elle est positive, qui consiste à dire, on va doter les individus à un moment où ils ont besoin de ce capital, d'un certain capital pour qu'ils puissent démarrer dans la vie. Vous pouvez nous expliquer
Oui, c'est ça. C'est l'héritage ou la dotation universelle. Ça porte plusieurs noms. L'idée, c'est ça. C'est de dire on va se servir de certaines recettes fiscales donc qui peuvent porter sur l'héritage lui-même ou peut-être sur d'autres aspects. Ça peut porter sur le patrimoine, etc. Et de se dire, tout ce montant-là, au lieu de l'utiliser pour différents aspects, différentes dépenses de l'État, on va en faire une dotation universelle. On va vous transmettre un capital. Alors là, ça peut être à différents âges de la vie. Le but, souvent, c'est aussi d'avoir l'objectif de rajeunir le patrimoine, comme on en parlait aussi au début. Donc, de transmettre quand les gens en ont besoin. Donc, on peut se dire que c'est peut-être à 18 ans, à 25, à 30. Après, on peut choisir. Mais en tout cas, de transmettre un capital à ce moment-là.
Alors, il y a des pays qui l'ont fait. La Grande-Bretagne l'a fait pendant un court moment.
Avait commencé à le faire, à abonder des fonds dans ce sens-là, qui ont été plus abondés assez rapidement, donc finalement il n'y a plus grand chose à transmettre, mais ils avaient lancé cette idée-là, et c'est aujourd'hui ce qui est repris, par exemple par Thomas Piketty en France, justement de créer cette dotation-là. Et donc ce qui est justement...
C'est-à-dire on crée un compte d'épargne qui est déjà abondé à la naissance et puis il va croître et il va permettre à un adolescent à 18 ans, à la majorité, de détenir déjà quelque chose.
Exactement, ça pourrait prendre cette forme-là, ouais. Et donc après, ça pose plein de questions, combien est-ce qu'on transmet? Est-ce que c'est universel ou est-ce qu'on le cible sur les gens qui ne vont pas hériter par ailleurs? Est-ce que c'est complémentaire ou un substitut d'autres types d'aides? Donc là, il y a énormément de recettes, des gens qui ont des avis très différents, mais c'est quelque chose qui permet d'avoir un héritage universel. Donc là, c'est un outil beaucoup plus puissant que la fiscalité, en fait, pour réduire les inégalités. Mmh. Parce que si vous recevez rien et qu'on taxe votre voisin, vous recevez toujours rien. Tandis que là, si vous recevez quelque chose grâce à l'impôt qu'on a fait peser sur votre voisin, du coup, il y a une redistribution beaucoup plus massive, en fait. Donc si ça complète l'impôt, ça peut être un outil qui est très, très puissant pour réduire, justement, les inégalités de patrimoine.
Ouais. Mélanie Plouvier.
Oui, c'est une proposition qu'on trouve déjà au 19e siècle. On la trouve, par exemple, sous la plume de Thomas Paine ou même de François Huet, qui faisait partie du catholicisme social. Alors, cette proposition, elle est intéressante, effectivement, parce que elle opère une redistribution en capital égalitaire. Et de ce point de vue, il s'agit bien d'une correction apportée aux inégalités patrimoniales en donnant à tous, au point de départ, ce point de départ étant cet âge de la majorité, un capital égal. Il n'en reste pas moins que cette proposition qui est aujourd'hui portée par exemple par Thomas Piketty, elle vise finalement à conférer à chacun un capital de départ, un capital privé de départ, chacun étant ensuite en un sens responsable de ce qu'il en fera.
Ça se combine avec l'individualisme.
De ce point de vue-là, ça se combine avec l'individualisme. Le pas supplémentaire que font les auteurs que j'ai étudiés, les auteurs du 19e siècle que j'ai étudiés, c'est qu'ils insistent sur la nécessité d'une délibération démocratique sur ce que nous souhaitons faire avec l'argent des morts. Je rappelle ce chiffre que vous avez souligné tout à l'heure. D'ici 2040, 9 000 milliards d'euros vont être transmis. La question est de savoir est-ce qu'il n'est pas temps d'engager une réflexion collective face aux urgences qui sont les nôtres, il y a plusieurs chantiers massifs nous attendent, sur ce qu'il conviendrait de faire collectivement avec cet argent.
D'ailleurs, c'était un peu une idée analogue qui avait été lancée à la fin de la guerre de sécession et à la fin de l'esclavage aux États-Unis, de dire on va donner quelques acres de terrain et une mule à chaque esclave libéré pour qu'il puisse vivre. C'est-à-dire, ce qui est intelligent dans cette réforme, c'était qu'on l'a positivée. C'était pas uniquement une affaire de prélèvement, Nicolas Frémaux.
Oui, c'est ce qui peut rendre aussi, en effet, une réforme comme ça plus acceptable. C'est-à-dire qu'on va pas seulement taxer davantage des gens. Déjà, à nouveau, ce qui est souvent recommandé, c'est pas de taxer tout le monde, c'est vraiment d'augmenter la progressivité de l'impôt. Il y a souvent une confusion qui est entretenue aussi là-dessus. Et de se dire, pour rendre ça plus acceptable, faut soit flécher des dépenses vers un but précis, donc je sais pas, la transition écologique soit, par exemple, soit faire une dotation universelle qui rend le transfert beaucoup plus visible, beaucoup plus clair aussi politiquement. Donc c'est pas seulement un argument économique, ça peut aussi être un argument politique de rendre faisable, en tout cas souhaitable, ce genre de réforme.
Et puis, je crois que Nicolas Frémaux a dit quelque chose d'extrêmement important. Je crois qu'une des raisons de l'aversion à l'égard de la fiscalité successorale, c'est précisément l'absence de fléchage, c'est-à-dire l'absence de visibilité sur les usages qui vont être faits d'un patrimoine ou d'une fraction de patrimoine accumulée au cours de la vie. Et de ce point de vue, tous les instruments qui permettront de cibler certains usages, je pense, contribueront à réduire cette aversion à l'égard de la fiscalité successorale. Je pense d'ailleurs que c'est là une des raisons de l'écho très favorable que reçoivent aujourd'hui les propositions d'accroissement de la liberté testamentaire. En gros, les legs aux fondations, vers le secteur caritatif. Pourquoi ? Parce que quand une personne va faire un leg, je ne sais, pour telle association, soit écologique, soit pour tel problème de santé, cette personne sait vers quoi cet argent va être, ce à quoi cet argent va être destiné.
Ça se pratique beaucoup aux États-Unis, ça. Nicolas Frémaux.
La philanthropie, c'est un aspect évidemment assez important et qui peut...
Et pourquoi ça ne marche pas en France ? Les chiffres que vous citez sont quand même 1,7%, 0,14%, je vois quelque chose comme ça.
C'est beaucoup plus limité en effet. C'est dur, c'est un peu dur à expliquer. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'aspect philanthropie. C'est vrai qu'il y a un aspect culturel qui est assez important.
Il y a une dimension culturelle et puis il y a le droit successoral. Parce que notre droit successoral... depuis la Révolution française, structuré autour de la réserve héréditaire, c'est-à-dire que les enfants sont les héritiers réservataires, leur est réservé une part du patrimoine.
Il y a le droit successoral, mais il y a aussi le débat politique, il y a aussi l'audace dans les idées politiques. On a l'impression que le 19e siècle est beaucoup plus audacieux, il se pose beaucoup plus de questions, il pose la question de la propriété. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est tétanisé, que le débat politique autour de l'héritage, il est sous pression, c'est Nicolas Frémaux.
Oui, il y a une amélioration, en effet, c'est un frémissement, on partait d'assez loin, mais moi quand j'avais écrit mon livre, en fait, c'était juste après la campagne présidentielle de 2017, et pour trouver vraiment une trace des propositions relatifs à la fiscalité successorale dans les différents programmes des candidats, mais il y avait...
La gauche ne s'est pas emparée de cela.
En 2022, il y a une grosse différence, là on voyait vraiment un écart droite-gauche, donc là il y a eu un moment dans la campagne où c'est le sujet un peu revenu sans que ce soit forcément ultra dominant, et on a vraiment vu justement que c'était une question qui restait vraiment très marqué à droite ou à gauche, avec pour la droite de l'échiquier une volonté de baisser justement l'impôt, notamment de favoriser les donations justement qui sont déjà très fortement concentrées, et à gauche avec un éventail assez différent, une volonté d'augmenter la progressivité de l'impôt. Donc c'est quand même revenu de manière là très nette sur le côté droite-gauche.
Mélanie Plouvier.
Alors effectivement, lors de la dernière campagne présidentielle, le frémissement a commencé à s'opérer, avec quand même un débat qui demeure polarisé autour du plus ou moins d'impôts.
Un petit peu caricatural.
Et globalement, quand même, du moins d'impôts, même à gauche, sauf pour les très très grosses transmissions. La proposition de Jean-Luc Mélenchon était de plafonner les héritages, donc en gros de taxer à 100% au-delà, je rappelle ce chiffre, de 12 millions d'euros. On parle exclusivement des très très grosses transmissions. Et comparativement, le 19e siècle apparaît comme bien plus prolifique en proposition, et parvenant à sortir de ce prisme fiscal qui, à mon sens, cloisonne quand même grandement le débat.
Alors, cette émission arrive pratiquement à son terme. La question que j'aurais vous poser l'un et l'autre, alors c'est peut-être plus difficile pour une philosophe historienne des idées, mais c'est, une idée, quelque chose à faire, une proposition que nos auditeurs pourront garder avec eux en souvenir de cette émission, Nicolas Frémaux.
C'est une question, mais... c'est de réfléchir, mais je pense que j'ai mis peut-être répondre bien encore plus philosophe, plus qu'économiste, mais réfléchir à ce que c'est vraiment que la propriété. En effet, le fait que votre propriété vous survive, en effet, on est content, Mélanie aussi, que ça me revient, mais ça va pas toujours aller de soi. Et en effet, on pourrait se reposer comme cette question-là aujourd'hui. Donc en effet, ça apparaît tellement évident aujourd'hui de vouloir protéger ses enfants.
C'est ça. Tout à fait. On parle plus de capitalisme que de propriété, paradoxalement.
Oui, c'est ça. Et c'est quand même un vrai enjeu sur qu'est-ce qu'on lègue, mais aussi seulement à ses enfants, à la société. Et donc, en effet, le fait de socialiser les héritages, c'est une question qui paraît totalement délirante aujourd'hui. Et c'est bien de se replonger un peu dans le passé.
Et peut-être de faire cette idée dont vous parliez, Mélanie Plouvier, je vous ai entendu, si j'ai compris ce débat du 19e, c'est-à-dire de recommencer une société à chaque génération, finalement.
En tout cas, d'utiliser ce moment de suspension des droits de propriété que constitue la mort pour se demander s'interroger sur ce que nous souhaitons. Je répondrai à votre question. Alors, je ne sais pas si je vais répondre en philosophe, mais au contraire, je vais répondre par une initiative, alors qui en reste aujourd'hui à la forme d'une initiative privée. En Autriche, Marlène Engelhorn, héritière du groupe BASF, a hérité d'un important héritage qui s'élève à plusieurs millions. Elle a décidé de se dessaisir de cet héritage, donc elle n'utilisera pas elle-même cet héritage, mais elle a été beaucoup plus loin. Elle n'a pas simplement dit « je décide de l'usage qui va être fait ». Moi, Marlène Engelhorn, je vais transférer, léguer ces sommes à telle ou telle association. Elle a mis en place une mini-convention citoyenne qui a eu la charge de décider de ce qu'il allait advenir de ses biens. C'est-à-dire qu'elle s'est dessaisie de la capacité que lui donnait héritage de déterminer les usages. Et c'est une des propositions qui ressemble, des initiatives privées aujourd'hui, qui ressemble le plus aux propositions de mes auteurs du 19e siècle, avec cette idée d'une démocratisation de l'argent des morts.
Eh bien, on restera sur cette proposition encourageante et en plus réelle chez nos amis autrichiens. Esprit de justice est terminé pour ce soir. À la technique, il y avait Anthony Thomasson. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Laurence Chenepin. Une émission d'Antoine Garapon.